Bonjour à tous et merci aux organisateurs du colloque. Alors je tiens à préciser, donc Étienne Smith, aucun lien de parenté avec Stephen Smith, merci. C'est important de le rappeler. Donc moi je suis content d'être là parce que je ne suis pas du tout spécialiste des questions du religieux. J'ai plutôt travaillé dans ma thèse sur les relations intercommunautaires au Sénégal. Et maintenant je travaille sur le vote de la diaspora sénégalaise, donc des sujets assez éloignés de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance en 2008-2009 de faire partie d'une enquête que dirigeait David Leitin sur la question des discriminations à l'encontre des musulmans en Europe. Il y avait donc toute une enquête quantitative qui a été citée hier, qui travaillait sur la question de la discrimination des musulmans, notamment en France. Et moi, je faisais un volet ethnographique auprès de familles d'origine sénégalaise en France qui accompagnait en fait la partie quantitative de l'enquête. Donc mon enquête portait sur des familles sénégalaise, donc une vingtaine de familles, donc au total une soixantaine d'entretiens avec des individus dont on avait choisi exprès pour le dispositif d'enquête, en fait une moitié de familles multiconfessionnelles, d'origine sénégalaise, donc avec des catholiques et des musulmans au sein même des familles, et une autre partie de l'échantillon qui était des familles uniquement catholiques ou uniquement musulmanes. Et le volet de mon enquête portait spécifiquement sur le vécu des discriminations et surtout la façon dont ce pluralisme religieux au sein des familles se reconfigurait ou pas entre le Sénégal et la France. Comment la présentation de soi finalement la façon de gérer au sein même des familles des différences religieuses était affectée par un contexte français qui avait tendance, surtout dans le contexte où on faisait l'enquête 2008-2009, à bipolariser fortement des identités qui au Sénégal n'étaient pas vécues comme prises dans cette bipolarisation. Alors il y avait aussi une autre spécificité à l'enquête, c'est que contrairement à la quantité de travaux qui existaient sur les sociétés sénégalaises en migration, donc notamment Soninké, Alpoular et Wolof, nous on a travaillé sur en fait des groupes très minoritaires dans la migration, donc des familles Serer et Diola. Donc très minoritaires dans la migration et aussi des groupes qui au Sénégal se caractérisent par une très forte proportion d'individus de confession catholique. Donc ça permettait d'interroger un peu différemment, avec un regard assez décalé, ces questions sur l'islam subsaharien en France, en prenant des communautés qui, a priori, ne seraient pas les plus évidentes pour ce type d'études. Alors, je vais d'abord essayer de montrer un peu les conséquences de l'arrivée en France de ces familles sur les pratiques religieuses au sein de ces familles. Je vais m'intéresser notamment à des cas de conversion qui ont eu lieu au sein des familles, de l'islam au catholicisme, ou surtout, beaucoup plus, du catholicisme vers l'islam. Ensuite, je vais m'intéresser à la question des clivages générationnels au sein de ces familles. Et enfin, sur la question de la double invisibilité des musulmans subsahariens en France, comment cette question se configurait dans les familles que j'ai étudiées. Alors, juste pour donner quand même quelques aperçus de ces configurations pluralistes au niveau familial. Voici trois exemples de familles multiconfessionnelles. Donc ce sera, désolé, le tableau est en anglais parce que ça fait partie d'un article qui est issu de cette recherche que j'ai publiée en anglais. Donc là je parle notamment de la famille d'Angélique, donc qui est aide-soignante en région parisienne, qui a eu un premier mari camerounais catholique, puis un second mari mandingue musulman sénégalais, et dont les enfants, donc quatre enfants, sont un bel exemple de patchwork religieux au sein même de la famille, avec ces deux aînés qui sont catholiques, ces deux cadets qui sont musulmans, mais ces deux aînés catholiques sont devenus musulmans. Donc il y a eu deux trajectoires de conversion pour des raisons différentes dans cette famille, et je vais expliquer pourquoi. Une autre famille dans la région de Nantes, donc Adèle et Pierre, tout ça est anonymisé bien sûr, c'est d'autres noms, donc qui eux sont catholiques tous les deux parents, mais leur aîné en fait est musulman parce qu'ils l'ont adopté, puisque c'est en fait le neveu de Adèle, c'est le fils de son frère qui lui est musulman. Elle est catholique, son frère est musulman, et ils ont donc adopté et amené en France leur neveu. Leur neveu qui a été élevé comme catholique, mais qui est devenu musulman à l'adolescence. Pendant que les deux cadets, qui sont les vrais enfants biologiques, eux sont restés catholiques, mais non pratiquants, voire athées. Voilà. Et enfin, une troisième configuration familiale à Nantes toujours, donc de Mathilde, qui a eu un premier mari français sans religion, et un second mari sénégalais musulman. Avec du coup ses deux aînés qui sont catholiques, et ses quatre, elle a eu des quadruplés, donc ses cinq derniers enfants qui sont musulmans. Donc finalement, des situations auxquelles on n'est pas forcément habitué dans ces débats-là, mais qui sont intéressantes justement pour voir comment se gère tout ce pluralisme. Alors dans la première famille que j'évoquais, la conversion donc de Albert, qui est le second, lui c'est le contexte de rencontre avec des amis sénégalais mourides en France qui l'ont fait basculer donc du catholicisme hérité de sa mère et de son père vers l'islam, dans une situation d'échec scolaire. Mais surtout, ce qui a été déterminant, en fait, c'est sa venue à Touba et la rencontre de sénégalo-américains ou d'américano-sénégalais à Touba, qui était très actif dans l'organisation du Magal et avec qui il est devenu très ami, avec des voyages aux États-Unis, etc. Pour la famille de Paul et Adèle, donc Alassane que j'évoquais tout à l'heure, lui, ce sont au contraire des amis maghrébins et comoriens de son quartier qui ont été un peu le contexte de sa conversion. Et un contexte scolaire, par contre, là, marqué par une situation complètement inverse, des études exigeantes de classes préparatoires aux grandes écoles, qui, du coup, contrastent assez fortement avec le contexte scolaire de la conversion d'Albert. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des familles, bien sûr, des parents, à ces trajectoires de conversion. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas d'Albert, devenu Saliou, qui se convertit, donc, au Mouridis, ça a été assez mal perçu par la famille, notamment donc, par sa mère, et aussi par le frère de sa mère, donc catholique fervent, qui raconte cette conversion, et qui lui, en tant que catholique sénégalais, aime un peu se disputer avec son neveu devenu mouride, pour lui expliquer que lui, en tant que catholique sénégalais, il connaît mieux l'islam finalement que lui qui a juste appris quelques chassaïdes, mais qui n'arriverait pas à les réciter, donc lui va lui faire un peu la leçon en tant que catholique sénégalais. Dans le cas de la famille de Paul et Adèle à Nantes, ce qui est intéressant, c'est que la mère Adèle, en fait, elle n'a pas encouragé la conversion d'Alassane, mais elle a très bien réagi, en fait, et elle a dit que ça nous a rapprochés. En fait, que sa conversion lui a permis de se rapprocher de Dieu, certes dans une autre confession, mais que du coup elle arrive à entrer en dialogue avec lui et qu'elle s'entend beaucoup mieux avec son aîné devenu musulman qu'avec Frédéric, qui est le cadet, qui lui est resté catholique mais qui ne va plus à la messe, qui ne croit pas en Dieu, qui est en doute et avec qui il ne s'entend pas bien, à qui elle reproche de passer son temps à jouer aux jeux vidéo, tandis que l'aîné est un très bon exemple, très bonnes études, etc. Maintenant il est en Chine, il travaille dans une grande banque, etc. Donc elle est vraiment, elle a montré cette conversion comme étant faisant partie de la trajectoire de réussite de son fils qu'elle approuve fortement. Donc voilà pour un peu les trajectoires de conversion que je voulais évoquer vite fait. Ensuite, à travers ces trajectoires d'individus au sein des familles, j'ai aussi essayé d'étudier vraiment comment la pratique évoluait en France suite à la migration. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement, chez mes enquêtés, quand même un sentiment assez général c'est le terme qu'ils utilisent eux-mêmes, de plus grande paresse en France, que la pratique finalement décline un peu une fois arrivée en France, et non pas parce que les lieux de culte seraient difficiles à accéder parce qu'il en manquerait, etc., mais plutôt à chaque fois des arguments un peu personnels de « bon, j'ai pas le temps, je travaille trop, c'est pas grave, je fais pas mes prières aujourd'hui, je les rattraperai demain », etc. Enfin, des justifications un peu en termes de choix individuel, de faire des priorités, notamment pour la question du travail. Là encore, dans la région de Lyon, deux autres enquêtés, qui, notamment, c'est intéressant, dans un entretien, Mamadou Lamine qui nous explique qu'il n'y a pas assez de mosquées dans le quartier où il habite à Lyon, et que c'est une raison pour laquelle il ne va pas prier, mais en fait, à la fin de l'entretien, il explique que ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'en fait, il est devenu un peu paresseux, qu'il sait très bien il y a une mosquée pas loin, il pourrait y aller, mais que bon, il y a la flemme en fait. Donc il y a ça, ces arguments-là qui reviennent assez fréquemment. Donc, à la fois donc, en France, des trajectoires de religiosité, disons, accrues avec le phénomène de conversion, mais aussi beaucoup de phénomènes de pratiques, disons, publiques en tout cas, relativement déclinantes. Alors j'avais aussi posé plein de questions sur le futur de ces mariages interreligieux, puisque j'avais beaucoup d'individus, la moitié, qui étaient issus de ces familles mixtes religieusement, il y avait la question de, bon, est-ce que, à l'avenir, eux-mêmes pensent pour leurs propres enfants que le mariage interreligieux est une bonne voie, ou est-ce qu'au contraire, ils ont changé d'avis sur la question? Donc, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais là, les positions étaient assez mixtes, assez diverses sur cette question, il n'y avait pas, bien sûr, position unanime, avec quand même en milieu catholique quand même une réticence assez forte à ce que leurs enfants, notamment leurs filles, épousent un musulman. C'était un peu ce qui ressortait, mais c'était vraiment, disons, 60%, 40% au sein de mes enquêtés. Avec des positions donc, plutôt pour, plutôt vraiment contre, etc. Donc je vous passe. Il y avait aussi des questions sur... Alors, évidemment, dans ces entretiens, il émergeait quand même beaucoup, notamment dans la région lyonnaise. Alors ça, c'était aux spécialistes de la région de nous expliquer. Un « nous » défini comme « nous sénégalais » ou « nous subsahariens » versus les maghrébins, qui émergeaient vraiment de façon récurrente dans les entretiens. Mais c'est assez frappant de voir que c'est spécialement dans la région lyonnaise, en tout cas, dans mes entretiens qui émergeaient. Et là, Noua qui nous explique... donc lui, famille musulmane, tout le monde est musulman dans sa famille. Il est OK pour un mariage de ses enfants avec un ou une non-musulmane, mais surtout pas d'arabe. Il préfère chinois, tout bas, tout cela, mais pas... C'est vraiment une création d'un out-group assez fort qui émergeait dans ces entretiens. Alors je passe sur la... Il y avait aussi des questions sur la comparaison entre la laïcité à la française et la laïcité à la sénégalaise. Et là, pour le coup, les positions étaient assez unanimes. Catholiques comme musulmans dans l'échantillon, une incompréhension de cette laïcité à la française et une condamnation sans appel chez tous, catholiques comme musulmans, dans de la loi de 2004 sur le foulard, avec toujours l'argument d'une mise en valeur de la laïcité à la sénégalaise plutôt qu'une laïcité à la française, et l'incompréhension qui est un même terme pour décrire des réalités qui, en fait, sont très différentes. Notamment Lamine qui, lui, est arrivé assez récemment et qui explique qu'il ne comprend pas pourquoi les fêtes religieuses musulmanes en France ne sont pas fériées, alors qu'au Sénégal, les fêtes religieuses catholiques le sont, et même historiquement, étaient même plus nombreuses que les fêtes religieuses musulmanes à être fériées. Donc, toute cette incompréhension, et donc finalement, une valorisation du modèle sénégalais, très claire chez tous les enquêtés, par rapport au modèle français de laïcité. Mais il y avait des contrastes assez forts, par contre, sur la question de la visibilité. Les catholiques sénégalais, d'une part, se plaignaient d'une absence de structuration communautaire, tout simplement en fonction de faibles effectifs, et qu'au fond, disons, ils disaient, on rencontre très peu de Sénégalais catholiques en France, on rencontre des Sénégalais d'Afrique centrale, des Sénégalais des Caraïbes, etc. Du coup, entre Sénégalais catholiques, on est trop peu nombreux pour exister en tant que communauté, et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus souvent avec nos compatriotes sénégalais musulmans qu'avec d'autres chrétiens. Cet argument imparable d'Adèle, vous savez, nous catholiques, puisque nous sommes une minorité, si nous n'épousons pas des musulmans, il y aurait beaucoup de célibataires. Cette forte conscience quand même que le fait d'être une minorité dans la minorité rend encore, oblige à des stratégies d'ouverture inévitables. Pour la question d'une distinction entre islam subsaharien et islam maghrébin, là c'était assez intéressant, il y avait donc des stratégies de distinction chez mes enquêtés, assez générales, d'une distinction nette, assumée entre l'islam subsaharien et l'islam maghrébin. Mais ce n'était pas des discours sur l'islam en général, c'était toujours pris dans des situations de contexte de relations de travail, de vie quotidienne, etc., où des différences étaient mises en scène par mes enquêtés entre eux et des collègues de travail, par exemple, maghrébins. Avec toujours l'argument que nous, musulmans sénégalais, notre islam est plus compatible avec la République française, et moins revendicatif, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours critique vis-à-vis de, disons, des précédents ou des aînés en migration que sont les maghrébins dans ces contextes-là, était toujours suivi d'une forme de discours d'admiration mêlée ou d'envie vis-à-vis de, je cite, ces maghrébins qui, eux, savent se faire entendre, qui, eux, savent naviguer les méandres administratifs et associatifs, etc. Donc c'est un peu ce qui a été dit hier à propos de clichés, etc., que vraiment il y avait une avance, un savoir-faire organisationnel des premiers arrivés en migration, finalement, que n'avaient pas les seconds arrivés en migration, et que du coup, dans ce entretien avec Noua, qui est très critique de ses relations de travail avec ses collègues maghrébins, toujours quand même, quelque part, un sentiment d'admiration et d'envie par rapport à ce savoir-faire que, dit-il, lui, n'a pas, avec cette phrase, « Moi, j'ai comme un barrage devant moi ». Les Arabes, ils poussent plus que nous, ils gueulent plus que nous. Nous, on fait doucement, mais ça paye pas. Bon, je vais arriver bientôt à ma conclusion. J'ai essayé aussi de voir comment mes enquêtés se positionnaient par rapport à cette question de double invisibilité, donc à la fois invisible comme noir dans l'islam de France, mais aussi invisible comme musulman aux yeux du grand public français, parce que c'était... très frappant que tous insistaient qu'ils ne sont pas perçus comme musulmans par le français lambda. Ils sont d'abord perçus comme noirs, que la source des discriminations, et ça confirme l'enquête Trajectoire et origine de l'INED, unanimement, catholiques comme musulmans, mentionnaient la couleur de peau comme étant le critère principal de discrimination, d'entrave à l'accès à des positions sur le marché du travail, avec certes un léger avantage onomastique des catholiques qui ont des prénoms qui sont perçus par le public français comme moins exotiques, entre guillemets, moins musulmans, mais que globalement, c'était la race, bien sûr, qui était le master status, bien avant la question de la religion. Et donc, des usages tactiques, et j'en terminerai là, de cette double invisibilité. C'est-à-dire que chez mes enquêtés, il y avait effectivement une déploration de cette invisibilité dans l'islam de France, de cette invisibilité quoi musulman pour leurs collègues français, mais aussi la possibilité que ce soit une ressource tactique de finalement ne pas être perçu comme musulman par des collègues français dans des moments de tension, comme il y a eu au moment de la loi sur le voile, etc. C'était perçu par mes enquêtés comme une ressource finalement tactique, cette absence d'islamité apparente aux yeux du grand public. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas le temps de monter en généralité, de poser quelques conclusions provisoires, mais je garde ça pour la discussion. Voilà.